Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous changeons aujourd'hui de temps liturgique avec le temps de la Septuagésime, un temps intermédiaire qui est déjà un temps de pénitence marqué par la couleur violette des ornements liturgiques que le prêtre utilise pour la Sainte Messe. Intermédiaire donc entre le temps d'Épiphanie et le temps du carême, qui commencera le mercredi des cendres. Septuagésime, 70 jours avant Pâques. En fait, strictement parlant, il n'y a pas 70 jours, il y a 64 jours depuis aujourd'hui jusqu'à Pâques. Mais 70 est un signe, est un chiffre symbolique. Et c'est un temps de pénitence. Il faut nous préparer à faire pénitence. Nous devrions faire pénitence tout le temps. Pourquoi? Parce que sont obligés de faire pénitence tous ceux qui ont offensé le bon Dieu. Si j'ai offensé le bon Dieu, je suis obligé de faire pénitence. Je le dis souvent, les seules personnes qui sont dispensées de faire pénitence sont ceux qui n'ont jamais péché. Ceux qui n'ont pas eu le péché originel, notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte et très Sainte Vierge Marie, bien sûr. Et puis, ce qu'on appelle les voleurs de paradis, les enfants qui meurent juste après le baptême. Eux, ils prennent la voie d'innocence pour aller au ciel. Ils n'ont pas besoin de faire pénitence. Mais nous, pauvres malheureux que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché dans le passé, même si nos péchés ont été détruits par le sacrement de pénitence, enlevés par le sacrement de pénitence, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui souffre sur la croix. Malgré cela, il y a la peine à payer. Il y a des conséquences à payer. Alors, je voudrais essayer de vous aider à comprendre pourquoi il faut faire pénitence et dans quelle mesure il faut faire pénitence. Il me semble qu'on a trop tendance à considérer la pénitence de façon purement extérieure. Vous savez qu'il y a deux sortes de pénitence. Il y a une pénitence intérieure et une pénitence extérieure. La pénitence intérieure consiste tout simplement dans la douleur de nos péchés, accompagnée d'un ferme propos de ne pas retomber dans les mêmes péchés, ni dans aucun autre. Par contre, la pénitence extérieure est un fruit de la première et consiste à se punir de ses fautes passées. La pénitence extérieure sans la pénitence intérieure, ça vaut rien. C'est la bouillie pour chat. Au contraire, la pénitence intérieure, même toute seule, même sans la pénitence extérieure, vaut déjà beaucoup. Donc la pénitence importante, c'est celle du cœur. La pénitence intérieure, certes, il faut aussi faire pénitence extérieurement, ça aide pour la pénitence intérieure, mais c'est relativement secondaire par rapport à la première. On a trop tendance, justement, quand on parle de pénitence, à ne penser qu'à la pénitence extérieure, à faire pénitence en regard de la nourriture, en regard du sommeil, à l'égard du corps, c'est très bien. Mais tout ça ne vaut pas la pénitence intérieure et ne vaut rien sans la pénitence intérieure. Alors, il me semble qu'au lieu de considérer la pénitence que de façon purement négative, il vaudrait mieux pratiquer une pénitence positive, avoir une conception positive de la vertu de pénitence. Et pour avoir cette conception positive de la vertu de pénitence, je pense qu'il faut aujourd'hui, alors que nous rentrons dans une période de préparation, c'est la dernière ligne droite en quelque sorte, avant le mercredi des cendres, le carême, la sainte quarantaine, eh bien, il nous faut nous préparer nos âmes. Et au lieu de choisir des pénitences purement physiques, encore une fois concernant la nourriture, le sommeil ou le corps, il me semble qu'il serait largement préférable pour vous et pour moi de penser plutôt de façon positive à une vertu spéciale à pratiquer pendant le temps de pénitence. Et de chercher à pratiquer une vertu spéciale pendant les 40 jours de carême, à mon avis, nous apportera beaucoup plus de grâce que de faire des pénitences physiques ou de considérer la pénitence, encore une fois, que comme une chose purement négative. Alors, quelle vertu spéciale pratiquerons-nous durant le temps de pénitence, durant le temps du carême? Bien, il faut tout simplement d'abord considérer notre tempérament. Si nous sommes colériques ou sanguins ou flegmatiques ou mélancoliques, en fonction du tempérament que nous avons, soit du tempérament principal, soit du tempérament secondaire, eh bien, il nous faut, nous allons avoir certains défauts, des qualités, bien sûr, issues de chaque tempérament, mais aussi des défauts. Donc, par exemple, le colérique va avoir une tendance à la colère, comme son nom l'indique, à l'impatience. Et donc, la vertu qu'il va falloir, peut-être qu'il pratique pendant le temps du carême, c'est la vertu de patience, la vertu de charité. Le sanguin a tendance à mentir, ou a aussi à faire toutes les choses de façon trop superficielle. Il y a peut-être l'effort particulier qu'il devrait faire pendant le temps du carême, c'est consiste à faire ce qu'il doit faire, remplir son devoir d'État de façon plus parfaite. Le mélancolique, il boude. C'est un gros, gros boudeur. Un tempérament très riche, mais un tempérament très intérieur, il boude. Et donc la pénitence, peut-être la pénitence particulière, la vertu spéciale qu'il le faudra pratiquer pendant le carême, peut-être sera tout simplement de réfréner ses bouderies et de sourire. Sourire au bon Dieu, sourire aux gens qui sont autour de lui. Enfin, le tempérament flegmatique. Flegmatique, lui, c'est surtout la paresse. Et donc il va falloir qu'il pratique, qu'il s'oblige à avoir une règle de vie un peu plus stricte pendant le temps de carême, justement pour lutter contre la paresse. Le deuxième moyen de savoir quelle est la vertu spéciale que je vais devoir pratiquer pendant le carême, c'est demander, pour ceux qui sont mariés, demander à votre époux. Demander à votre épouse, en privé bien sûr. Attendez que votre épouse soit de bonne humeur, que votre épouse soit de bonne humeur, et vous lui demandez, chérie, quelle est la vertu sur laquelle tu voudrais que je travaille? Alors, si vous demandez ça à votre époux, à votre épouse, elle va sans doute ouvrir des yeux ronds, en se demandant si vous n'êtes pas devenu fou, insistez. Quelle est la vertu sur laquelle je devrais spécialement travailler? Elle va sans doute vous répondre, et à l'embarras du choix, mais insistez. Et elle vous aidera à déterminer si elle vous aime, et elle vous aime certainement, si elle vous aime vraiment, elle va vous aider à déterminer quelle est la vertu particulière sur laquelle vous devriez travailler pendant le carême. Et l'inverse est vrai aussi. Et les épouses, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander à votre cher époux la vertu sur laquelle vous devriez travailler pendant le carême. Dans certains cas, avec prudence bien sûr, on peut demander aux enfants, aux grands-enfants, au moins pour le fort externe, bien sûr. Les enfants, surtout les adolescents, ils connaissent très bien le péché mignon de leurs parents, peut-être bien mieux que nous. Et ils vous donneront certainement des tas de conseils, même beaucoup de conseils, peut-être un peu trop même, pour vous indiquer quelle est la vertu sur laquelle vous devriez travailler pendant le carême. Et donc, pendant la Sainte Messe d'aujourd'hui, après votre communion d'aujourd'hui, demandez cette grâce. Mon Dieu, donnez-moi les lumières dont j'ai besoin pour que je puisse connaître la vertu principale sur laquelle je devrais travailler. N'oublions pas que la pénitence intérieure, extérieure, même la pratique d'une vertu particulière, qui est une certaine forme de pénitence, est nécessaire au salut. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Il ne dit pas, si vous ne faites pas pénitence, vous aurez du mal pour aller au ciel. Il dit, si vous ne faites pas pénitence, la porte sera fermée pour vous, vous périrez tous. Dans les exercices de Saint Ignace, il y a une petite remarque, pour ceux qui ont le livre bleu, le livre des exercices. C'est la remarque 87. Je vais vous la lire parce que c'est une remarque sur laquelle on n'a pas beaucoup le temps de parler, malheureusement, pendant les 5 jours de Saint Ignace à cause du manque de temps. Je vous lis ce paragraphe de Saint Ignace, écrit donc autour des années 1520, 1522, 1523, sous la dictée de la très sainte Vierge Marie. Voilà ce que dit Saint Ignace. Les pénitences extérieures se pratiquent principalement pour 3 fins. Et ce qu'il dit est aussi valable pour les pénitences intérieures. La première, pour la satisfaction des péchés que l'on a commis. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire pour la réparation des péchés. Quand j'ai commis un péché, j'ai une dette à payer. Même si le bon Dieu me pardonne le péché, il y a toujours la dette à payer. La deuxième fin pour laquelle je dois faire pénitence, je dois faire pénitence pour me vaincre moi-même, c'est-à-dire pour obliger la sensualité à obéir à la raison et à la partie inférieure de l'âme à se soumettre autant qu'il est possible à la partie supérieure. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu par le péché originel l'ordre qui régnait dans notre âme. Et le désordre s'est introduit, la révolution s'est introduite dans mon âme, ce qui fait qu'il y a une révolte constante des passions contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre la loi de Dieu. Enfin, la troisième fin, dit Saint Ignace, il faut faire pénitence aussi pour obtenir de Dieu quelques grâces particulières que l'on désire. Par exemple, celle de ressentir intérieurement une vive douleur de nos péchés, de les pleurer amèrement ou de verser des larmes sur les douleurs et les souffrances de notre Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ endura dans sa passion, ou enfin la solution de quelques doutes. N'oublions pas, mes bien chers frères, que surtout pendant le temps du carême, le temps de pénitence, beaucoup des grâces que le bon Dieu a prévues pour nous sont des grâces conditionnelles. C'est des grâces que le bon Dieu va nous donner à condition qu'on les demande. Rappelez-vous l'évangile de la tempête apaisée. Le bon Dieu qui ne demande qu'à être réveillé par les disciples, mais qui attend d'être réveillé par eux. Et si les disciples ne veulent pas réveiller notre Seigneur Jésus-Christ qui dort dans la barque va couler. Eh bien c'est pareil, pour des grâces dont nous avons besoin pour aller au ciel. Le bon Dieu va les déverrouiller en quelque sorte, à condition que je fasse pénitence. C'est ce qu'on appelle une grâce conditionnelle. C'est comme un mot de passe, si vous voulez. Le mot de passe sur un ordinateur, vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas ouvrir l'ordinateur. Bien, de la même façon, ces grâces sont préparées, mais le bon Dieu a prévu que ces grâces nous seront données dans la mesure où je fais certaines pénitences. La pénitence a un don particulier pour ouvrir le Sacré-Cœur. Ouvrir le Sacré-Cœur. La pénitence nous aide en quelque sorte à utiliser davantage la miséricorde infinie du bon Dieu pour le pécheur repentant. C'est l'oraison de dimanche de la Septuagésime. De votre clémence, exaucez, Seigneur, la prière de votre peuple. Faites que justement affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour la gloire de votre nom. Nous souffrons à cause de nos péchés, mais par votre miséricorde, délivrez-nous de ces souffrances. Vous nous préparez à monter au ciel. L'Église a choisi soigneusement des textes spécifiques, justement pour ce dimanche de la Septuagésime, pour nous donner en quelque sorte la lumière qui va être la nôtre et qui va nous accompagner pendant ces 70 jours avant Pâques. Premier texte, c'est un texte de Saint Paul aux Corinthiens. Et Saint Paul va nous donner plusieurs conseils. Premier conseil qu'il nous donne, courez de manière à remporter le prix. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Quel est le prix ? Le prix de ma course, c'est pas une couronne de laurier, c'est une couronne spirituelle. Le prix de ma course, pour vaincre moi-même, pour satisfaire pour mes péchés, pour obtenir de Dieu certaines grâces, le prix de ma course, c'est le ciel, le paradis. La clé pour ouvrir la porte du paradis. Si j'arrive devant la porte du paradis, je n'ai pas la clé en poche, je ne peux pas rentrer. Donc voilà pourquoi je dois, en ce début de Septuagésime, je dois déjà choisir la vertu spéciale à pratiquer pendant le temps du carême. Deuxième conseil de Saint Paul, je châtie mon corps, je le réduis en servitude. Je cours, non comme au hasard, je combats, non comme frappant l'air, je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Je châtie mon corps, je le réduis en servitude. Il y a un combat, le combat spirituel c'est ça. Ma volonté propre contre la volonté du bon Dieu. Il faut mettre ma volonté propre dehors pour que le bon Dieu ait la place dans mon âme pour y imposer sa volonté. Je dois être l'esclave de quelqu'un. On ne peut pas aller au ciel sans avoir une idole. C'est impossible. Cette idole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme tous les hommes ont une idole, ou ils choisissent comme idole, comme Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ou ils prennent comme idole un faux Dieu. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et ce faux Dieu, c'est le démon. Ou c'est eux-mêmes. Mais ça vient eux-mêmes. Soit j'adore notre Seigneur Jésus-Christ, sa sainte volonté, soit je m'adore moi-même, je me prends pour Dieu, et j'adore ma volonté propre. Rappelez-vous la promesse du démon, Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux, Adam et Ève. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien et mal. Le bon Dieu vous a dit ce que vous pouviez faire et ce que vous ne pouviez pas faire, et vous a dit entre autres que vous n'aviez pas le droit de toucher à l'arbre. Au fruit de l'arbre du bien et du mal. Laissez tomber ces imbécilités. Faites ce que vous voulez, parce que vous devenez comme Dieu, et étant Dieu, vous avez le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et déjà, le poison de la liberté de conscience, le poison de la liberté religieuse, avait été versé dans le cœur, dans l'âme d'Adam et Ève. Et c'est ce même poison de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, qui coule dans mon âme, à cause de l'influence du libéralisme moderne dans lequel je suis malheureusement obligé de vivre. À force de vivre dans une poubelle, que ça vous plaise ou non, vous allez finir par sentir mauvais. Moi aussi. Cette senteur, ce parfum nauséabond qui émane de notre âme, c'est la liberté de conscience. Le droit de faire ce que je veux, le droit de penser ce que je veux, le droit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce temps de Septuagésime, il est utile de reprendre le texte de la Genèse. Si vous faites ce que je vous demande et vous croquez la pomme, vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, à cause de cette soumission au démon qu'il nous faut en quelque sorte briser, nous sommes attachés au démon par une chaîne qu'il faut briser, mes bien chers frères. C'est voilà pour moi aussi. À cause de ça, je dois châtier mon corps, le réduire en servitude. Une chaîne d'acier qui nous rive au mur, il faut l'enlever et ça ne se fait pas en 5 minutes. Prends pas une paire de gants pour enlever une chaîne. Il faut taper dessus un coup de marteau pour qu'elle casse. Et le troisième avertissement de Saint Paul, c'est le plus grave. Avec la plupart des hommes, dit Saint Paul, ne furent point agréables à Dieu. Voilà le texte. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. L'eau qui sortait du rocher et la manne. Car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Rappelez-vous de tous ceux qui sortirent d'Égypte, l'immense peuple élu de l'Ancien Testament. On ne sait pas exactement combien ils étaient. Au moins 600 000. Peut-être 1 million avec les enfants. Eh bien, sur ce million de personnes qui ont quitté la terre promise, sur ce million de personnes qui ont quitté l'Égypte, qui sont sorties d'Égypte protégées par Moïse, protégées par la nuée lumineuse, par la nuée qui protégeait les Juifs des Égyptiens qui les poursuivaient. Eh bien, de tous ces gens qui ont traversé miraculeusement la mer Rouge, 2 seulement sont arrivés en terre promise. Josué et Caleb, 2. 2 sur 1 million. Même Moïse, le grand Moïse, a vu de loin la terre promise, mais il n'y est pas rentré. Il est mort avant. Et les cadavres de tous ceux qui sont morts ont jonché le désert. Seuls Josué et Caleb sont rentrés en terre promise. Certes, l'Église ne dit pas que tous les autres sont en enfer. C'est pas ce que dit l'Église. Mais elle fait remarquer que sur le million de personnes qui a quitté l'Égypte des pharaons, seules 2 personnes sont rentrées en terre promise. Vous savez, si des saints comparent le nombre des élus au nombre d'olives qui restent dans l'arbre après la récolte sur les oliviers, si Jacinthe à Fatima, le petit Jacinthe, disait que les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire joli. C'est pour nous faire réfléchir. La plupart d'entre eux, donc, ne furent point agréables à Dieu. Pose-nous cette question, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Alors, vous allez me dire, c'est une objection qu'on entend malheureusement trop souvent. Mais mon père, monsieur l'abbé, pour moi c'est trop tard. Le char est trop embourbé. Comment voulez-vous que je m'en tire après des années, des années, des années de péché? Alors, pour ne pas nous décourager, le bon Dieu nous donne l'évangile de Saint Matthieu, les ouvriers de dernière heure. Ce royaume des cieux qui est semblable à un père de famille qui sortit le grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et il va sortir et il va envoyer ses intendants pour chercher les gens qui n'ont pas de travail. Il y en a qui vont arriver à la troisième heure, il y en a qui vont arriver à la sixième heure, il y en a qui vont arriver à la neuvième heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Il y en a même qui vont arriver à la 11e heure, 5 heures de l'après-midi. Et lorsqu'il faut payer ces gens, l'ouvrier de la dernière heure va recevoir le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Il va recevoir un denier. Pourquoi? C'est une leçon que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. En nous disant, même si vous convertissez au dernier moment, du moment où vous vous convertissez, vous aurez la même récompense, le ciel. Ce denier représente le ciel. C'est pour ça que c'est le même denier pour tout le monde. Tous ceux qui sont payés sont ceux qui vont au ciel. Mais notre Seigneur Jésus-Christ donne 2 avertissements terribles en fin de cet évangile. Premier avertissement, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ceux qui sont arrivés passeront après. Ils sont arrivés les premiers, mais ils passeront en dernier, s'ils passent. Et au contraire, ceux qui sont arrivés en dernier seront les premiers. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, mais bien chers frères, n'ayons aucune confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous allons à la messe traditionnelle tous les dimanches nous sommes sauvés. Il faut encore vivre en état de grâce. Il faut encore vivre de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut encore avoir l'humilité qui permet la vertu de charité. Deuxième avertissement, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le rappel du petit nombre relatif des élus. Et n'oublions pas, mes bien chers frères, que si nous sommes infidèles à la grâce du bon Dieu, le bon Dieu va aller chercher d'autres personnes, les ouvriers de dernière heure. Moi, je vois ça tous les jours, ou presque. Des gens qui me contactent, qui n'ont pas été baptisés. Des gens qui me contactent, qui ne viennent pas de milieu traditionnaliste. Des gens qui me contactent, qui ne sont même pas catholiques. Mais qui, par une grâce extraordinaire que le bon Dieu connaît, ils sont connectés au site dont je m'occupe, Dame Marie. Et puis ils sont préparés. C'est comme ça que j'ai pu baptiser ces dernières années peut-être 70 adultes, grâce à Dieu. Certes, je crois qu'au moins 2 d'entre eux n'ont pas persévéré, hélas. Mais il y en a 68, à ma connaissance, qui ont persévéré. Remercions le bon Dieu pour ça. Alors, si je suis infidèle, le bon Dieu ira chercher quelqu'un d'autre, hein. Donc il faut l'humilité, frapper à la porte du bon Dieu, réveiller le bon Dieu qui dort au fond de la barque pour que le bon Dieu me donne les grâces dont j'ai besoin. Demandons toutes ces grâces, mes bien chers frères. Cette grâce dont je vous ai parlé au début, j'y reviens en fin de sermon, cette grâce de connaître la vertu spéciale que je vais devoir pratiquer de façon toute spéciale pendant le carême. Demandons cette grâce. Et n'oublions pas que les grâces, elles passent toutes par la Sainte Vierge, hein. Donc c'est par elle qu'il faut passer. Mettez la Sainte Vierge dans votre poche et demandez-lui, très Sainte Vierge Marie, aidez-moi à comprendre quelle est la vertu que je dois pratiquer. Pour ceux qui ont vraiment du mal et qui ont peut-être besoin de faire une bonne confession générale, encore une fois, je vous parle des retraites. Je donne 6 retraites, je commence la première retraite en février, il y aura 6 retraites jusqu'au mois de septembre. Octobre même, j'ai encore des places pour la retraite de mars, la retraite de septembre, la retraite d'octobre. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le calendrier des retraites sur la page d'accueil du site Dame Marie. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie, pour vous et pour moi, mes bien chers frères, les grâces dont j'ai besoin, surtout la grâce de savoir comment je peux faire vraiment plaisir au bon Dieu. Comment est-ce que je peux devenir agréable à son sacré cœur? Par l'amour. L'amour du bon Dieu, c'est-à-dire par la vertu de charité, fondée sur la vertu d'humilité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.